Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC.
7h30 sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à vous tous, le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. Des actions locales sont en cours, c'est le cas dans la zone industrielle du Havre. Nous serons sur place au début de ce journal. Troisième journée de mobilisation au lendemain de la première journée de débat extrêmement tendu à l'Assemblée nationale sur le projet de loi, marqué par de vifs échanges entre les différents camps politiques. Et puis la course contre la montre est lancée en Turquie et en Syrie pour retrouver d'éventuels survivants dans les décombres au lendemain de séismes qui ont tué plus de 4300 personnes.
Troisième journée contre la réforme des retraites ce mardi, les Français se mobilisent.
250 rassemblements partout en France et moins que mardi dernier. De nombreuses perturbations à prévoir dans les transports en commun, sur les rails, compter un TGV sur deux en moyenne, mais aussi perturbations dans les airs, des actions locales également. C'est le cas dans la région du Havre ce matin. Martin Bourdin, vous êtes près de Gonfreville, en Seine-Maritime pour RMC. C'est là que des dockers, des raffineurs, mais aussi des salariés de la pétrochimie et même des retraités se sont donné rendez-vous afin de bloquer l'activité économique autour du port du Havre.
Effectivement, et le résultat, Thibaut, ce matin, c'est que des dizaines de voitures, de camions sont bloquées sur les ponts d'accès à cette zone industrielle, contraints de faire demi-tour parce que le mot d'ordre est simple. Personne n'entre, personne ne sort de cette zone qui donne sur le port du Havre. Des centaines de salariés et donc de retraités ont répondu à l'appel de la CGT pour bloquer tous les points d'accès depuis 6 heures ce matin et gripper l'activité du poumon économique de la ville. Un moyen de monter en pression face à l'absence de réponse du gouvernement jusqu'à présent. Frédéric Bichot est délégué de l'Union locale de la CGT.
C'est un premier avertissement à M. Macron. C'est un premier avertissement. S'il n'écoute pas, à un moment donné, ça va monter un peu plus fort et ça va monter. Et je ne sais pas comment ça va finir, mais des blocages comme ça, il y en aura d'autres. Et les manifestations pacifistes, à un moment donné, ça va peut-être s'arrêter aussi.
Des actions plus dures, des blocages que comprennent globalement ceux qui les subissent. Plusieurs automobilistes bloqués à l'entrée de cette zone industrielle me disaient ce matin soutenir ces actions syndicales.
Martin Bourdin en direct du Havre pour RMC. Jusqu'à 1 200 000 personnes ont manifesté mardi dernier dans le pays. Combien aujourd'hui? Probablement un peu moins, peut-être la conséquence d'une quatrième journée d'action samedi prochain. Alors les Français vont-ils rester mobilisés? Jean-Wilfried Forquet est allé vous poser la question dans les rues de Toulouse.
J'ai été la première, la deuxième non, la troisième je sais pas.
Malheureusement je pourrais pas manifester aujourd'hui et samedi parce que je pars quelques temps à l'étranger, donc ça m'empêchera de soutenir cette cause.
À l'heure actuelle les politiques ils font ce qu'ils ont envie de faire. Je pense que les gens sont plus entendus quand ils vont dans la rue. Donc.
J'irai pas manifester aujourd'hui et samedi parce que je perds... Deux jours, ça fait quand même 200 euros sur mon salaire.
Je ne serai pas dans la manifestation tout à l'heure, mais par contre, samedi, puisque mes obligations professionnelles me le permettent, je serai à la manifestation.
Et sur le plan politique, c'est dans une ambiance houleuse que l'examen du projet de loi a débuté hier à l'Assemblée nationale, théâtre de passe d'armes entre les différents clans. Les oppositions se sont succédées au pupitre afin de dénoncer la réforme et l'insoumis François Ruffin d'adresser un tacle à l'encontre du gouvernement.
Vous faites pitié. Voilà le sentiment que vous m'inspirez. Notre pays vient de traverser la crise Covid. Derrière, nous plongeons dans la guerre en Ukraine, avec l'essence à plus de 2 euros. Dans ce tunnel, quelle lumière allumez-vous pour les Français? Aucune. Aux infirmières, aux caissières, aux manutentionnaires, à cette France qui se lève tôt et qui va au boulot, qu'offrez-vous? 2 ans. 2 ans ferme. Formidable ambition. Vous faites pitié.
Quelques échanges sur le fond, trop peu, nombreux face aux invectives, menaces, intimidations des élus. RN et de la majorité ont été la cible de messages mal intentionnés, reprise des débats dans l'hémicycle ce mardi à partir de 17h. Et le débat se poursuit sur RMC, journée spéciale. On vous attend toute la journée au 32-16 et dès la fin de ce journal, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sera l'invité d'Apolline de Malherbe. Il est 7h35 sur RMC. Chaque minute compte en Turquie, en Syrie, au lendemain de violents séismes dans la région. Les secours s'organisent pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres, parfois enneigés. Ibrahim habite une commune frappée par le séisme près de Gaziantep. S'il a réussi à s'extirper des amas de béton, sa femme est toujours coincée.
Je me suis dit que ce devait être la fin. On n'a même pas eu le temps de réagir. Le bâtiment s'est effondré sur nous.
J'étais avec ma femme. Ma femme était coincée juste en dessous de moi. Ma femme est encore coincée là-dedans. Il ne faut jamais perdre espoir, mais elle est probablement morte. Je ne peux pas me résoudre à le dire, mais je n'ai pas d'espoir.
Et à cette heure, on dénombre plus de 4300 morts, plus de 30 000 blessés. Bilan provisoire en Turquie, en Syrie. L'aide internationale s'organise. 45 pays ont proposé leur aide. La France envoie 40 tonnes de matériel et près de 140 secouristes de la sécurité civile. 36 pompiers doivent également s'envoler dans la journée. On est toujours sans nouvelles ce matin d'Elena. Cette jeune étudiante infirmière de 21 ans n'a plus donné signe de vie depuis la fin du mois de janvier et une soirée d'anniversaire à Brest. La thèse de l'accident est privilégiée à cette heure par les enquêteurs. Un suspect a été identifié ce week-end, toujours hospitalisé. Ce dernier aurait tenté de mettre fin à ses jours par deux fois et aurait confié à son frère avoir commis une bêtise. Lucille Pascanet nous dresse le profil de cet homme de 36 ans.
Au troisième étage de cet immeuble gris, son appartement porte encore les traces de la perquisition. C'est ici que vivait le suspect, à quelques centaines de mètres du lieu où Elena a disparu. Certains voisins choqués le décrivent comme un jeune homme discret, poli. Bien connu chez les restaurateurs brestois, il a été chef cuisinier dans la très animée rue de Siam. D'anciens collègues parlent d'un bon vivant qui aime faire la fête et qui pouvait devenir excessif avec l'alcool. Pas un mot en revanche dans le bar du port où il travaille depuis trois ans. C'est donc lui qui est au cœur de l'enquête depuis qu'il a confié à ses proches avoir fait une bêtise avant de tenter de se suicidé. Dans quelles conditions aurait-il croisé la route d'Elena qu'il ne connaissait pas? Y a-t-il eu un accident, comme il l'a laissé entendre? C'est l'une des pistes principales ici, mais le corps de la jeune femme reste introuvable et le principal suspect impossible à interroger. Il est toujours dans le coma à l'hôpital.
Les précisions de Lucille Pascanet, service police justice RMC, envoyé spécial à Brest. On termine avec un mot de ski. Place aux hommes ce mardi au Mondiaux de Méribel-Courchevel avec l'entrée en lice très attendue d'Alexis Peintureau à domicile, aligné ce matin sur le combiné.
Puis le quintet?
Le quintet, c'est à Cagnes-sur-Mer aujourd'hui, sous le soleil, à 13h50 sur RMC Découverte. Le 14, Shams Abad est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 7. Joli coup, le 14 et le 7.
C'était le journal de Thibaut Texari, les 7h37.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h, au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, le 4 mai à Montpellier, avec RMC.